Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs. 30 des 35 centres de santé de Kinshasa sont aujourd'hui touchés par l'épidémie de choléra qui sévit la capitale depuis fin novembre dernier. Selon Jean Liolongo, coordonnateur au sein du pôle urgence pour le Congo des Médecins Sans Frontières, 818 cas ont été enregistrés dans la capitale congolaise pour 35 décès à la fin 2017. Entre-temps, des nouveaux cas continuent d'apparaître chaque jour et cela inquiète la population. Et pour faire face à la situation, le MSF a réagi par la construction d'une unité de traitement du choléra UTC assurant les désinfections adéquates des malades. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Laissez-nous un message sur notre page Facebook ou appelez au 081 890 49 69 pour participer à cet échange. J.R. Lungembo est au standard, Pierrot et Lamégie à la réalisation. Ce magazine est mis en onde par Jean-Claude Ntiala. Nico Kalambay, c'est moi. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Encore une fois, merci d'être sur Okapi à l'instant. Et pour développer ce thème, nous avons associé à ce débat Dr Jean-Faustin Balelia. Il est directeur santé Croix-Rouge RDC. Dr Jean-Faustin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à Parole aux auditeurs. La première question, docteur, y a-t-il à ce jour en RDC un plan d'urgence de riposte contre le choléra, dès lors qu'on sait que la RDC est menacée par cette maladie?
Oui, il y a un plan d'urgence au niveau du ministère de la Santé, où tous les partenaires sont impliqués.
Docteur Jean-Faustin, la prévention du choléra, on le sait, passe par l'hygiène et particulièrement l'accès à l'eau potable. Quels sont les efforts qui sont fournis pour améliorer cet accès à Kinshasa et à un milieu rural en particulier?
Bon, lorsqu'il y a l'épidémie de choléra, donc nous essayons de sensibiliser la population pour qu'ils puissent mettre en pratique les règles d'hygiène, donc l'hygiène de l'eau, l'hygiène des aliments. Donc pour l'eau, donc on demande à la population soit de bouillir l'eau ou bien de désinfecter l'eau avec du chlore et des cendres. Donc voilà un peu ce que nous demandons à la population de faire pour avoir de l'eau potable, pour consommer l'eau potable.
Est-ce que cette sensibilisation est bien faite pour atteindre une grande partie de cette population aujourd'hui à Kinshasa, avec tout ce qu'on connaît comme problème d'inondation et d'immondices que l'on voit sur la ville de Kinshasa?
Bon, disons que pendant la période de l'épidémie, bon, nos efforts se concentrent surtout là où il y a l'épidémie, donc dans les zones de santé où il y a l'épidémie. Et les aires de santé où il y a l'épidémie. Bon, ce n'est pas toujours facile de couvrir toute la ville, étant donné que les moyens sont très, très limités. Le pays est vaste, il y a beaucoup de problèmes en rapport avec l'hygiène. Ce n'est pas facile de couvrir toute la ville, même toute la zone de santé, parce que les moyens sont très, très limités. Le nombre de volontaires que nous impliquons ne peut pas aller dans tous les ménages pour sensibiliser la population.
Nous venons de parler de cette initiative du MSF qui a réagi par la construction d'une unité de traitement du choléra. C'est une initiative, on peut dire, salutaire, mais est-ce que cela suffit pour éradiquer cette épidémie?
Bon, pour la lutte contre le choléra, il y a plusieurs stratégies. Donc, nous devons aussi sensibiliser la population donc dans les changements de comportement. Donc, on doit amener la population au changement de comportement.
Ce que vous faites déjà, vous venez de le dire, oui.
Oui, c'est ce que nous on fait au niveau de la Croix-Rouge. Donc, nous faisons aussi la désinfection des ménages touchés. Donc, la ménage touchée. Et ensuite, dans les lieux publics, on fait la promotion de lavage des mains avec la mise en place du dispositif de lave-mains. Nous faisons des sensibilisations à amener les gens à voir comment on peut laver les, on peut se laver les mains. Hein, bon, voilà un peu les stratégies que nous mettons en place. Donc, mais il y a aussi les autres activités qui sont menées pour qu'ensemble nous puissions arriver donc à éradiquer donc l'épidémie.
Docteur Jean Faustin, mis à part la contamination des sources d'eau ou des réseaux de distribution, d'autres facteurs peuvent être évoqués pour la mobilité des populations. Est-ce qu'une étude susceptible d'apporter une lumière sur les sources de contamination n'est pas importante aujourd'hui? Parce qu'il faut prévenir cette épidémie. Aujourd'hui, il faut la combattre, mais il faut d'abord prévenir l'épidémie. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'une vraie étude pour essayer d'éradiquer le choléra?
Bon, pour éradiquer les choléra, donc, comme on avait dit, il y a plusieurs stratégies. Donc, il y a aussi des infrastructures de base. Hein. Quand les infrastructures de base n'existent pas, c'est difficile. Là où il n'y a pas de l'eau potable, il faut donner de l'eau potable à la population. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment qu'on voit d'abord du côté infrastructure de base, comment on peut arriver à faire quelque chose. Bon, je pense que ça, c'est le rôle du gouvernement qui doit faire tout pour qu'il y ait donc, dans toutes les zones de santé, donc de l'eau potable, des infrastructures permettant à la population d'avoir de l'eau potable.
Voilà. Les réactions des auditeurs, nous revenons à vous. Il y a des auditeurs qui réagissent déjà sur notre page Facebook. Il y a Gervais, par exemple, qui souhaite que cette unité de traitement soit créée partout en RDC sans exclure une partie du territoire national, moindre soit-elle. Quand on poursuit un objectif, dit-il, il faut aller jusqu'au bout. La vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie. Même cas pour la santé de l'éducation, article 16 et 47 de notre Constitution de 2006. Il serait souhaitable d'ores et déjà que l'État congolais, via son ministère de la Santé et les autres ONG, puisse élargir la sensibilisation harmonieuse sur le programme eau, hygiène et assainissement sur tout le territoire national congolais. Tous les êtres humains ont droit à un environnement sain et sans menace. C'est le point de vue de Gervais. Nous allons tout de suite accueillir Kalud, qui nous appelle de l'Ikassi. Kalud, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs. Kalud, vous êtes là?
Allô?
Kalud, bonjour. Voilà, c'est Claude et non Kalud. Claude, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup. En fait, je voulais juste dire que le choléra étant devenu une pandémie, et la lutte efficace, n'est-ce pas, se repose sur l'introduction des notions d'hygiène. Comme vient de le dire le VT. Et ces notions d'hygiène sont enseignées non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Moi, je souhaiterais que ça puisse s'étendre même dans les églises et toutes, n'est-ce pas, les sociétés, n'est-ce pas, où on retrouve la population. Mais il revient à signaler que le choléra se retrouve plus, n'est-ce pas, en grand nombre dans les pays pauvres. Et j'ose même dire que c'est une maladie, n'est-ce pas, des pays pauvres, des pays non développés, d'autant plus que dans des pays occidentaux et même d'autres pays africains qui ont déjà atteint un certain niveau de croissance économique, cette maladie, c'est rare qu'elle soit signalée. Parce que dans des pays pauvres, ce sont les inondations. Ce sont, n'est-ce pas, les aliments qu'on vend sur des marchés qui sont étalés à même le sol. Ce sont, n'est-ce pas, les gens qui se retrouvent peut-être dans des fêtes ou encore qui se lavent dans de vases communs. Alors, pour éradiquer cette maladie, je crois qu'il revient à ce que les campagnes de sensibilisation soient intensifiées. Non seulement placer l'équipe de traitement, tout ça, mais je crois que ce sont des campagnes qui doivent s'intensifier dans des milieux, différents milieux où on trouve le gens. Et pour finir, je voulais poser une question de curiosité et à l'invité concernant les choléras.
Oui.
Cette maladie et son historique, à quand a-t-elle commencé à être constatée ici chez nous? Et n'y a-t-il pas moyen, n'est-ce pas, de combattre la souche éradiquer définitivement cette maladie.
Claude,
ou bien elle est déjà restée, c'est difficile de l'éradiquer.
Claude, vous
voilà
avez...
Voilà un peu mon intervention pour la journée d'aujourd'hui.
Claude, vous avez parlé...
Surtout sur la question de l'historique.
Claude, vous êtes avec
aussi,
nous.
Et des stratégies pour éradiquer définitivement cette pandémie.
Claude, vous avez parlé de la sensibilisation, vous avez insisté sur la sensibilisation et vous demandez qu'elle soit élargie, cette sensibilisation, dans les écoles et les églises. Claude, vous êtes là?
Oui, je suis encore là, oui.
Voilà, notre invité vient de dire que c'est vrai, cette sensibilisation se fait, mais il y a un problème, il se pose un problème des moyens, parce que quand vous dites qu'il faut élargir ça dans des écoles, dans des églises, déjà cette sensibilisation qui se fait ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Pensez-vous qu'avec les maigres moyens, comme il vient de le dire, que la Croix-Rouge possède, ils peuvent aller faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui?
Les maigres moyens, c'est bien beau parce que nous savons, la plupart des structures de santé, quand il y a une épidémie, ils attendent toujours qu'il y ait financement, de tout ça pour essayer de sensibiliser la population. Mais je crois que il faut qu'ils recadrent aussi leurs moyens de sensibilisation. Même s'ils ont peu de moyens, ils peuvent par exemple voir les médias, ils peuvent par exemple voir les représentations des églises, les coordinations, ils peuvent aller à ces niveaux-là supérieurs, essayer de véhiculer les messages, et ces derniers peuvent facilement atteindre une grande couche, n'est-ce pas, des populations. Parce que, prenons un exemple, lorsque vous parlez de ce dossier-là, au niveau de l'ECC, au niveau national, et que les représentants de l'ECC intiment l'ordre, n'est-ce pas, aux passeurs et aux différents districts, je crois que le message pourrait être donné chaque fois dans les églises, au niveau des églises catholiques également. Je crois que la structure est tellement bien élaborée.
Oui, puisque vous en parlez, puisque vous en parlez, Claude.
Également, bon, les écoles, on les fait tous les jours ici. Il y a même tout un chapitre dans nos leçons où l'on enseigne cela. Attendre des gros moyens pour faire des caravanes motorisées. Moi,
c'est
je crois
pas...
que
voilà.
C'est entretenir cette maladie.
Merci. Merci beaucoup, Claude. Vous venez de faire allusion à l'Église catholique pour la sensibilisation. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y a le ministère de la Santé qui organise un séminaire avec l'Église catholique pour voir comment cette sensibilisation peut se faire dans les églises. Ce séminaire a lieu au centre Lindongé. Et vous avez posé une question à notre invité. Docteur Geoffrey Balelia, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez directement répondre à la question de Claude Lucassi?
Bon, merci. Donc, moi, je pense qu'il a raison. Donc, ça, ce sont les canaux que nous utilisons, les canaux de sensibilisation. Mais, bon, comme on a dit, ce n'est pas facile d'être partout. Alors, il faut faire aussi la différence entre la période d'épidémie et la période donc normale où il n'y a pas d'épidémie. Bien sûr, le changement de comportement, c'est un problème de tous les jours, quoi. Mais il faut un minimum de conditions pour que cela soit quelque chose qui peut apporter de bons résultats. Et que les conditions d'hygiène, dans la communauté, si les conditions d'hygiène sont réunies pour qu'il y ait éclosion d'une épidémie, tu vois ce que ça fait. Donc,
voilà.
Il faut d'abord qu'on améliore les conditions d'hygiène dans les communautés. Et ensuite, accompagner les communautés au changement de comportement pour qu'ils puissent mettre en pratique les règles d'hygiène. C'est vraiment important.
Voilà.
Or, si nous regardons bien, en tout cas dans nos villes, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éclosion de l'épidémie, parce qu'il y a des immondices partout, il n'y a pas d'eau potable partout.
Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement.
Ce sont des problèmes qu'on doit d'abord résoudre.
Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Vous l'avez dit, docteur Jean-Faustin Balelia, merci, nous revenons à vous. Mais je vais quand même répondre à Claude, qui avait posé une question sur comment cette épidémie a évolué. Mais il s'agirait de la pire épidémie de choléra dans le pays depuis 1994. Aujourd'hui, et on a donc dit dernièrement, l'épicentre de la maladie est au camp Luka, un quartier au centre de Kinshasa, je voulais dire. Elie, vous êtes un Bandaka, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Capi, je salue tous les auditeurs.
Alors Elie, quel est votre point de vue? Comment faut-il faire aujourd'hui pour essayer de bloquer ou carrément d'éradiquer cette épidémie? Parce qu'il y a des cas qui sont enregistrés tous les jours.
Oui, tout à fait. J'ai salué les différentes interventions de mes prédécesseurs. Ici, à mon avis, Ça fait la honte d'entendre que la ville, la capitale de la République, commence à faire pénétrer certaines maladies purement épidémiques, mais ça serait aussi très grave dans les entités, dans les entités rurales, parce que la ville de la capitale de la République, c'est une entité urbaine qui ne pouvait pas avoir de telles sortes de maladies. Ça fait la honte. Mais la question sur laquelle nous discutons les choléras en question, il y a trois éléments qui peuvent parfois provoquer les choléras dans une entité quelconque. Nous avons l'insuffisance des services et des santé. Et aussi, nous avons la qualité impotable des eaux. Dans le premier cas aussi, nous avons aussi l'insalubrité, la présence des immondices, la présence de déchets, que la population est en train d'utiliser. Et à mon avis, ici, je voulais que cette responsabilité soit transversale, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la responsabilité toujours de la part du gouvernement, mais nous devons aussi faire tourner la responsabilité de la part de la population congolaise. En fait, la question ici, c'est celle de savoir si la population doit prendre la charge de l'hygiène et assainissement de son entité dans laquelle il est en train de vivre. Ce n'est pas toujours le gouvernement qui doit disposer des moyens pour l'assainissement du milieu. Et l'autre élément, comme nous avons même ici à l'Équateur, lorsque nous avons vu les tuyaux de la régie des eaux à travers lesquels on nous donne les dessertes de l'eau potable, cette eau potable n'est pas eau potable parce que lorsque l'eau est composée de beaucoup de couleurs, même les goûts ainsi de suite, ça peut créer des pathologies dans les corps dans les corps de la population. Les cas aussi des Kinshasa. Ce qui me donne aussi la référence de dire que le choléra qui vient d'être perpétré pour le moment, c'est parce que la présence de l'inondation. Et lorsqu'il y a la présence de l'inondation, comme une catastrophe naturelle, chez nous appelons ça un risque environnemental. Donc le gouvernement devait mettre en place les mesures de précaution pour que la population entourante, environnante, ne puisse pas tomber dans ces genres de pathologies, dans ces genres de maladies épidémiques. Parce que lorsqu'il y a l'inondation, vous allez vite comprendre que la population est entourée avec les déchets, la population est entourée avec les immondices, et la population dépose même les cacas autour de son environnement. Mais lorsqu'il y a la présence de l'inondation, la présence des eaux, des ruissellements, automatiquement, ça peut créer des pathologies, des maladies, ainsi, voilà. Ce qui peut occasionner les pertes aux vies humaines,
voilà.
Qui peut occasionner des maladies, ainsi de suite. C'est
Merci.
Ça la responsabilité du gouvernement.
Merci, donc, Eli.
Au niveau de cette province de la ville de Kinshasa, les gouverneurs de province peuvent mettre en place des mesures de précaution et de prévention lorsqu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle comme c'est passé là, à l'époque
des inondations. Merci beaucoup, Eli. Vous avez insisté sur l'approvisionnement en eau potable de la population qui est une responsabilité du gouvernement, l'évacuation des immondices mais aussi que la population puisse se prendre elle-même en charge, parce que quand elle est sensibilisée, elle doit respecter les règles d'hygiène pour éviter que le choléra puisse encore une fois être signalé à Kinshasa ou que cette épidémie puisse continuer. Eric, vous êtes à Likasi, bienvenue sur Radio Okapi.
Bonjour la Radio Okapi, et je salue aussi la première des choses. Je présente mes remerciements aux familles éprouvées parce que je viens d'auditer 35 cas déjà de décès parmi 818 et les autres qui viennent encore d'empathie. Et la première des choses, je vois maintenant un constat.
Oui.
Un constat qui fait causer les choléras, c'est quoi d'abord? Voyons les canaux de transfusion de l'eau potable. Ça date de longtemps. Est-ce qu'il y a-t-il des moyens pour mettre les intrants qui devaient aussi purifier les canaux de distribution d'eau? C'est ça la première des choses. De deux, l'homme est responsable de sa propre vie. Nous avons le vécu ici à Likasi, malgré qu'il n'y a pas encore eu de cas pareils, mais nous sommes en train de faire des constats. Il y a des canaux, les autres les appellent comme des rivières. Par exemple, ce ne sont pas des rivières naturelles. C'est ces canaux-là qui amènent de l'eau. Si vous passez de l'eau, ça inhale l'odeur vraiment insupportable. Et ces eaux-là qui vont passer à milliers de personnes, c'est l'eau vraiment contaminée. Et lorsque l'homme aspire l'odeur, ça lui provoquera quand même des infections. Vraiment, ce sont des cas qui sont divisés dans des villes. Les milieux vraiment ne sont pas vraiment propres. Vous allez voir même les avenues, il y a des plaques d'eau. C'est là des plaques d'eau dans des avenues, ça a une nappe d'odeur. Ça va contaminer des histoires. Bien entendu que nous invitons aussi la responsabilité du gouvernement parce qu'il voit certains milieux qui ne sont pas propres. Au lieu de se mettre à la place, comment maintenant protéger la vie de ces chiens, la vie de la population que je voulais maintenant parler. Et maintenant, on passe. Et maintenant, ça. Et maintenant, combien d'âmes? Les 818 et les 35. Combien parmi les morts, il devait maintenant avoir les autres qui devaient succéder pour harmoniser la République. Donc, nous invitons la volonté que celle qui gouverne, et le gouverner elle-même, nous, la population, nous devons quand même nous prendre en charge de nettoyer. La propriété, vraiment, c'est un garde-fou pour les autres milieux qui ne sont pas touchés.
Mais est-ce que tu as l'impression, Eric Ali Kassi, où tu vis, que la population a compris qu'il faut qu'elle se prenne en charge? Parce que c'est vrai qu'on peut mettre à la disposition de cette population les moyens, mais quand vous n'assainissez pas votre environnement direct, vous vous exposez aussi à cette maladie. Est-ce que tu as l'impression que dans ton entourage direct, Ali Kassi, la population apprend quand même à se prendre en charge pour éviter le choléra?
Oui, bien entendu, la population doit se prendre en charge. Vous allez voir certains où l'eau stagnante, ça commence à contaminer la communauté de cette partie. Donc, c'est la population qui devait même faire des cotisations pour dire non, faisons le tout pour évacuer cette eau. S'il y a des enjeux, qu'on prenne des enjeux pour mettre, pour asphalter cet endroit-là, ça pourrait maintenant prendre, c'est ça le moyen de se prendre en charge. Non seulement d'attendre que le gouvernement puisse débloquer un montant et maintenant alléger la vie de la population. Non, il y a les toilettes. Les toilettes ne sont pas vraiment bien assainies. Mm-hmm. Et il y a même l'eau que nous buvons. Ne sont pas vraiment bien appropriées. Donc c'est à nous. Et plus, nous devons aussi seconder le gouvernement parce que la vie en dépend de nous, la façon que nous devons les gérer.
Merci beaucoup, Monsieur Eric de Licassi. On a bien compris que vous avez, vous, au-delà de la sensibilisation qui est faite en amont, parce que c'est aussi important de sensibiliser la population. Et quand vous êtes sensibilisé, que vous avez l'information, il est toujours important de veiller à votre environnement, d'assainir votre environnement direct. Merci, Eric, vous interveniez de Licassi. Marie-Paul, merci de nous avoir écrit. Vous pensez-vous que la résurgence du choléra à Kinshasa est la conséquence logique de l'insalubrité, du haut degré de pollution, du manque de la gestion régulière des déchets et de l'échec de l'aménagement du territoire de Kinshasa? Face à cette pandémie mortelle, le gouvernement devait plutôt être interpellé au premier lieu pour la prise en charge rapide des souffrants et prendre des précautions de la salubrité de la ville de Kinshasa. Et après le bras de fer avec la Belgique qui assurait cette tâche afin d'épargner la population de cette pandémie, au lieu de laisser la tâche seule au MSF. Le préalable serait, selon vous, la mise en place d'une politique nationale d'interventionniste pour sauver les infectés et endiguer la propagation de cette épidémie, revigorer autant des services de la salubrité publique et de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup Marie-Paul Awa de nous avoir écrit de Kisangani. Doudou, vous êtes à Kisangani également. Bienvenue à Parole aux auditeurs.
Merci Nico, merci, bonjour Nico, je voulais dire bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
Alors je serai un peu bref. Je voulais dire d'abord tout premièrement qu'il y a le fait, hein, il y a le fait qui dépossède les gestionnaires, ça veut dire les autorités politiques, le pouvoir de gestion. L'État, tel qu'a dit mes prédécesseurs. Et une fois ce fait apparaître ou le phénomène apparaître, les autorités ont du mal à aussi le phénomène dépossède les gestionnaires, les pouvoirs de les gérer. Et à ce moment, ça cause des problèmes. Mais alors, nous devons comprendre une chose par rapport à l'épidémie de choléra telle que ça se présente à Kinshasa. Bon, le problème ou la responsabilité est partagé. D'une part, à sa part, la responsabilité, mais aussi la population a aussi sa part de la population. Du côté gouvernement, je dirais, il y a, parce que l'invité, le docteur, j'ignore encore le nom.
Docteur Jean Faustin.
Il a dit, il y a déjà un plan qui est mis en place pour lutter ou éradiquer la maladie ou l'épidémie, si vous voulez. Et les moyens sont insuffisants pour mobiliser tout le monde et arriver maison par maison, je ne sais quoi il a dit pour me dire que cela. Et vous allez voir aujourd'hui, pour moi c'est curieux de dire que les moyens sont insuffisants. Même lorsqu'il y a les moyens suffisamment, vous allez voir toujours que les financements qui arrivent ne réalisent pas ou ne font pas réellement ou ne sont pas utilisés orthodoxement relativement aux faits. C'est ce que je voulais dire.
Monsieur Doudou.
Surtout dans ce domaine de la santé, là. Dans ce domaine de la santé, vous allez voir les financements qui arrivent, les responsables de ces experts qui utilisent l'argent abusivement comme ça, au lieu d'orienter l'argent dans la nécessité. C'est ce que je voulais dire. C'est quelque part, il y a la léthargie de la part du gouvernement par rapport au contrôle.
Merci.
Parce que le nécessaire, ce n'est pas seulement donner l'argent. Et, non, il faut contrôler, il faut chercher à vérifier si l'argent qu'on a donné, l'argent qu'on a investi par rapport au fait, a réellement fait le travail.
Merci Doudou. Merci
et de
Doudou.
La part de la population, c'est une question de la socialisation aussi. C'est ça. Donc il faut qu'il y ait des services de contrôle tels que j'ai dit autrefois, parce que vous savez, nous sommes Africains, nous sommes l'homme noir, et la prise de conscience est un problème pour nous. Il faut qu'il y ait toujours les services. Nous imaginons encore quand nous grandissons, quand nous étions petits, il y avait toujours des
services. Les services d'assainissement.
Ils vérifiaient si l'état des toilettes sont normales, voilà. le marché, si les gens, comment ils sont, les immondices et tout ça, et ainsi de suite.
Merci beaucoup Doudou de Kisangani pour votre intervention. Vous insistez, c'est vrai, sur le financement et vous proposez qu'il y ait quand même un service de contrôle. On a vécu ça par le passé, qui contrôlait l'état des toilettes et qui évacuait les immondices. Merci à vous d'être sur Radio Capi en ce moment. Vous pouvez appeler pour intervenir en direct au 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, docteur Jean Faustin Balelia, vous venez de suivre notre auditeur de Kisangani, Doudou, qui dit que c'est vrai, vous avez évoqué un problème de moyens, des financements, mais il estime, lui, que même quand il y a financement, cet argent ou ces moyens ne sont pas orientés de manière à ce que l'épidémie soit éradiquée. Les moyens sont généralement très mal gérés, au point que ça ne va pas au profit des malades. Ça ne profite pas aux malades.
Bon, je voulais dire ceci, hein. Donc, il y a les activités avant l'épidémie, pendant l'épidémie et puis après l'épidémie. Hein. Il faut pas seulement attendre lorsqu'il y a épidémie pour faire quelque chose. Nous devons avoir les moyens de faire quelque chose avant, pendant et après l'épidémie.
Ouais.
Tu vois? Alors, c'est ça la difficulté. Donc, bon, sur certains points, je suis d'accord avec lui, mais les fonds qu'on reçoit pour lutter contre la maladie n'est pas vraiment suffisant. Ce n'est pas un problème de gestion seulement. Hein. C'est un problème d'abord d'avoir suffisamment de moyens pour atteindre tout le monde, de sorte que les actions que nous allons mener soient efficaces sur le terrain. Tu vois? Hein, donc, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un problème seulement de gestion. C'est un problème d'avoir suffisamment. Tu vois, le pays, la RDC, c'était un continent, hein.
Right.
Hein? Donc, dans notre pays actuellement, si vous regardez bien, le choléra, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Hein? Il y a à peu près, presque toutes les provinces sont touchées, tu vois. Peut-être 24 ou 23 provinces sont touchées. Et il faut être partout. Hein? Tu vois, il faut être partout.
Oui, il y a également Doudou qui n'a pas parlé seulement des financements, mais qui a parlé aussi du problème de contrôle, parce que la prise en charge, a-t-il dit, pour les Congolais aujourd'hui, c'est un exercice très difficile, au point que le Congolais a besoin à un moment donné d'être suivi, d'être contrôlé. Donc il y a des toilettes qui sont très sales dans les parcelles des gens, il y a des immondices que l'on jette devant les parcelles. Dans le temps, il a évoqué ce problème où on voyait qu'il y avait quand même un service d'assainissement qui suivait, et ça n'existe plus, et ça c'est un problème.
Oui, de ce côté-là, il a raison. Mais quand il y a épidémie, on fait quand même des efforts pour que nous puissions éradiquer l'épidémie. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire avec tous les partenaires. Hein, avec tous les partenaires. Mais bien sûr, on ne peut pas seulement se limiter à ça. Il faut aussi voir, après l'épidémie, comment continuer avec les actions. Puisque, au niveau de la communauté, il y a un relâchement. Les gens, en tout cas, mettent difficilement en pratique les règles d'hygiène. Alors, il faut amener la population au changement de comportement, mettre en pratique les règles d'hygiène. Et aussi, puisque comme on a dit, les responsabilités sont partagées. Il y a le gouvernement, il y a aussi la population, donc qui doit faire quelque chose.
Voilà. Voilà, merci. Merci. On revient à vous. Mais nous avons parlé de l'auto-prise en charge de la population qui devait se prendre en charge. Gracie, vous êtes avec nous depuis Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, Gracie, vous habitez non loin de là où le choléra sévit, tout proche de Pacajuma, et vous êtes président d'une association des jeunes volontaires qui vient de voir le jour. Parlez-nous un peu de cette association, parce qu'on a parlé de la prise en charge, et vous vous organisez pour que vous puissiez vous prendre en charge, au lieu qu'on soit là, toujours en train de dire, voilà, le gouvernement n'a pas fait, la population elle-même est capable aussi de se prendre en charge, et vous en êtes un exemple.
Ah oui, nous en sommes un exemple, parce que voyant toutes ces difficultés, nous venons de créer une association de jeunes volontaires, vraiment ils sont des volontaires, mais tout ce qui nous manque, c'est que nous n'avons pas une personnalité juridique, vous savez. Avant de faire des choses comme ça, il faut avoir une personnalité juridique. Alors comme nous sommes des jeunes, parce que moi autant, je suis jeune, mais je gère une association de plus de 50-40 personnes. Et sans une personnalité juridique avec le Congo, vous voyez que c'est difficile.
Est-ce que vous avez mené des démarches? Est-ce que vous avez entamé des démarches pour obtenir cette personnalité juridique?
On ne sait pas se retrouver. On ne sait pas se retrouver parce que vous voyez, on a la conscience, mais on n'a pas encore l'expérience, parce que on a besoin des gens qui peuvent nous aider facilement à retrouver cette personnalité juridique. Parce que vous savez, au Congo, les bureaux sont compliqués. Tous les bureaux sont compliqués.
Oui, Gracie, vous aviez la parole.
Oui, tous les bureaux au Congo sont compliqués, et surtout quand nous sommes des jeunes, car nous avons des ambitions, de projets, on ne sait pas comment se retrouver, on ne sait pas comment on peut être aidé, comment partir pour retrouver la personnalité juridique.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites déjà concrètement? Est-ce que il y a des petites initiatives à votre niveau déjà? Est-ce que vous avez déjà commencé à essayer d'assainir votre milieu directement? Est-ce que vous avez sensibilisé d'autres jeunes à vous rejoindre? C'est vrai que la procédure, elle va prendre tout le temps qu'elle va prendre, mais il faut commencer quelque part. Est-ce que vous avez commencé?
Oui, nous réunissons déjà, parce que nous avons déjà nos statuts, nous réunissons déjà et nous avons commencé avec de petites réactions au niveau du quartier sur l'avenue Art Congo, non loin de Pacajuma, et ce sont des organisations petites parce que nous ne sommes pas encore reconnus, mais nous sommes un grand nombre. Vous voyez que avant de faire de grandes choses, il faut d'abord être reconnu par l'État, parce que nous sommes dans le sol congolais, vous savez.
Voilà, merci beaucoup Gracie, en tout cas nous vous encourageons pour cette initiative, j'espère que vous serez soutenu, hein, pour que d'autres jeunes puissent vous emboîter le pas et faire la même chose afin que la population elle-même aussi apprenne à se prendre en charge. Moussafiri, Madame Moussafiri, vous êtes à Kisangani, bienvenue à Parole aux Auditeurs. Madame Moussafiri, vous êtes avec nous depuis Kisangani? Voilà, je crois que nous avons des petits problèmes avec Madame Moussafili. Nous allons découvrir le point de vue de Alain Bolodjoa sur notre page Facebook. Il dit, comment peut-on ne pas connaître des tels cas dès lors que les gens vivent dans une promiscuité sans pareil? Il craint que la situation s'amplifie et atteigne d'autres sites non encore touchés jusque-là. Le cas de Mbandaka 3 est éloquent, dit-il. Les collecteurs d'eau et les caniveaux n'étant pas en mesure de traîner l'eau des pluies, on assiste à des inondations des quartiers entiers et pourtant, en règle générale, les populations de ces coins ont des toilettes, des trous. Lorsqu'il y a inondation, les déchets fécales remontent à la surface en suivant les mouvements d'eau. Il croit qu'il est imminent de chercher les moyens pour résoudre le problème d'évacuation des eaux au risque de toujours connaître ces genres de situations puisqu'il a parlé des inondations. On se souvient même que des inondations à Kinshasa ont été provoquées par des pluies torrentielles dans la nuit du 3 au 4 janvier. Avec une réplique dimanche 7 janvier dernier, faisant au total 48 morts, selon les autorités. Et une grande ville comme Kinshasa, avec 10 à 12 millions d'habitants, avec des pluies, avec des inondations, le risque de propagation de cette épidémie est très très élevé. Encore une fois, merci à John Odian qui nous a laissé un message. Il estime que le tableau de cas présenté par MSF est dramatique. C'est une honte pour mon pays, dit-il, surtout dans la ville où on trouve le siège des institutions, avec tous les services qui devaient prendre à bras le corps cette situation pour éradiquer cette épidémie due au manque d'assainissement, manque de l'eau potable et de la légèreté dans le service d'urbanisme et habitat, dans l'octroi d'autorisation de bâtir. Docteur Jean-Faustin Balelia, vous êtes directeur santé Croix-Rouge de la RDC. Vous avez suivi notre auditeur Gracie, qui avec ses amis ont pris l'initiative de se prendre en charge non loin de Pakajuma. Comment vous trouvez cette initiative? Vous ne pensez pas que c'est des choses qu'il faut encourager?
Non, merci. Moi, je pense que c'est une initiative vraiment louable, parce que si tout le monde pouvait faire la même chose, moi, je pense que ça va réduire beaucoup de problèmes dans la communauté. Je les encourage vraiment qu'ils s'organisent bien et puis qu'ils ne se limitent pas seulement au nombre de ces camps, mais ils doivent aller au-delà pour que leur message puisse arriver un peu partout.
Voilà, il a évoqué aussi le problème des moyens, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai, la volonté est là, mais les moyens font défaut. Je crois qu'ils seront bloqués à un moment donné, ils ne seront pas allés loin.
Bon, il faut toujours espérer, hein. Donc il faut toujours travailler et espérer que demain ou après-demain, les moyens seront là.
Voilà, Madame Moussafiri de Kisangani, vous êtes maintenant en ligne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Nico et bonjour pour les auditeurs de Radio Capi.
Merci d'être avec nous sur Radio Capi. Quel est votre point de vue? Comment faut-il faire aujourd'hui pour mettre fin à cette épidémie?
Nico, je suis d'abord ravi d'intervenir pour ce cas ici de diarrhée et de choléra un peu partout à l'RDC, parce que la fois passée à Kindu, chez moi, il y a eu cette épidémie. Mais l'intervention de MSF est toujours ce catastrophique, je vous dis, Nico. Je pose d'abord la question à ce médecin-là, à ce docteur-là. Quelle est la politique pour éradiquer cette épidémie dans cette république qui souffre? Les moyens qu'on donne pour éradiquer cette épidémie, on se distribue toujours l'argent comme ça par les autorités. Et les autorités ne pensent pas même qu'il faut prévoir d'abord s'il y aura l'épidémie. Si l'épidémie se présente à ce moment-là, ils sont en train de penser pour la population, la pauvre population. Alors, quelles sont les précautions qu'on disponibilise pour que les gens ne puissent pas s'atteindre avec cette épidémie? C'est ça la question que je pose d'abord à ces docteurs-là.
Oui.
La deuxième chose que je déplore, pourquoi attendre toujours? Je lui passe lui-même la question, les médecins-là. Pourquoi attendre toujours que l'épidémie soit là et on va donner des moyens? Cette ONG-là, internationale, et MSF-là, ni de sa présence dans cette république, ça doit être comment pour la pauvre population que nous sommes ici, dans ce Congo? tout cas, Nico, je suis désolé avec ces comportements que nous, les pauvres citoyens de ces pays, nous souffrons. Mais on donne la charge à une ONG qui aide souvent les gens. Oui. J'ai vu à Kindu, chez moi, au Maniema, comment est-ce que les gens mouraient facilement avec cette épidémie. Il était la présence là des MCF qui est venu sauver quand même des âmes. Mais bon, on a déploré beaucoup de morts. Hein. On a déploré beaucoup de morts, Nico.
Oui.
Alors, c'est ça la question que je voudrais poser à ce médecin-là.
Oui.
Parce que lui, il est peut-être proche de ce régime ici.
Je crois qu'il vous a écouté. Nous, bon, vous pensez qu'il est proche du régime, mais on le pense pas. Il est notre invité a parlé de cette histoire de sensibilisation. Il a parlé aussi de la prise en charge, de l'autoprise en charge de la population. Mais avant que l'État n'intervienne, comme vous le dites vous-même, est-ce qu'il n'est pas aussi important que la population puisse s'auto-prendre en charge, comme Gracie nous a donné cet exemple. Vous êtes à Kisangani. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas aussi à un certain niveau s'organiser, même avec des petits moyens pour essayer de voir comment il faut assainir l'environnement où ils vivent.
C'est ce que j'ai dit, Nico. C'est ce que j'ai dit, qu'il y a aussi une part de responsabilité pour la population aussi. Mmh. Parce que si on nous dit de se garder jalousement, dès que vous sortez, vous rentrez à la maison, il faut nettoyer les mains. Même pas le savon, même pas les cendres comme ça, il faut nettoyer les mains. Aussi, la population n'écoute pas, ne fait pas écouter souvent les climatos qu'on nous donne souvent pour les professionnels de la santé.
Mmh, voilà.
Aussi, il y a une autre responsabilité par rapport à la communauté, par rapport à la population.
Merci.
Ils ne veulent pas écouter souvent les mots des données, soit par la division provinciale de la santé, soit par l'environnement.
Merci.
C'est ça le problème.
Merci, madame Moussafiri.
Il y a une responsabilité à part de la communauté, non.
Mmh.
Ça, je ne refuse pas.
Voilà. Merci beaucoup, madame Moussafiri, d'être intervenue de Kisangani. Docteur Jean-Faustin Balelia, vous avez suivi madame Moussafiri et ce sont des questions directes. Quelles sont vos réponses?
Merci pour la parole. Donc, effectivement, madame est vraiment a beaucoup de préoccupations par rapport au choléra qui ne fait que continuer dans notre pays.
Mmh.
Bon, moi, je pense que c'est un problème de tous les jours. Hein. Le choléra, c'est un problème de tous les jours. Donc, ce n'est pas seulement pendant l'épidémie où on doit fournir des efforts, non. Nous devons éviter le choléra tous les jours.
Mm-hmm.
Hein. Donc, au niveau des familles, nous devons faire attention dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous consommons. Nos toilettes, nous devons arriver afin que nous puissions avoir des toilettes hygiéniques. Tu vois, donc... Même pour l'évacuation des immondices, nous devons savoir comment évacuer correctement les immondices que nous produisons. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est comme on l'avait dit, il y a une part de responsabilité du gouvernement et il y a une part de responsabilité de la population. Donc, la population doit se prendre en charge. Le gouvernement aussi doit jouer réellement son rôle.
Oui, mais c'est justement à ce niveau qu'elle se pose la question. Pourquoi attendre que l'épidémie soit déclarée pour qu'on commence aujourd'hui à parler de la prise en charge, alors qu'en amont, des dispositions pouvaient être prises? Elle est revenue sur un certain nombre des choses ici qui devaient être faites avant, pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Parce que vous imaginez que depuis janvier 2017, Kinshasa a connu 444 cas et 38 décès. Et à l'époque, on se souvient, pour le ministre de la Santé qui déclarait, qui avait donc dit que depuis novembre, il n'y avait pas de lien avec des précédents cas de choléra notifiés dans la capitale. Et il disait en son temps que le système sanitaire de Kinshasa était équipé et prêt à contenir cette épidémie. Curieusement, cette épidémie a encore refait surface aujourd'hui.
Bon, moi, je pense qu'il y a des choses qui s'est fait, hein, mais peut-être ce n'est pas vraiment suffisant, quoi. Donc, on a, hein, en dehors de l'épidémie, il y a des activités qui sont menées, mais peut-être les activités ne sont pas suffisantes. Hein, donc, parce qu'il y a les activités de développement.
Mm-hmm.
Où nous parlons de l'hygiène dans la communauté,
mm-hmm.
voilà, où nous amenons la population donc au changement de comportement. Bon, peut-être ce n'est pas suffisant. Mais il faut continuer. Mais de l'autre côté aussi, donc la population doit avoir de l'eau potable. Il faut un milieu assaini,
mm-hmm.
Donc pour que les conditions soient réunies pour éliminer donc les choléra dans nos communautés.
Voilà. Joël, merci de nous avoir laissé un message. Nous allons le découvrir après que nous ayons pris Christian qui nous attend à Kananga. Christian, bonjour et bienvenue. Parole aux auditeurs. Christian, vous êtes là?
Oui, alors c'est Christian Mwamba Kananga.
Voilà, je Christian.
Salut de vos invités et tous les auditeurs de Radio Kati.
Christian, on vous écoute.
Ok, le choléra dont on parle, c'est vraiment une maladie très urgente sur laquelle on ne peut pas négliger dans notre pays. Bon, actuellement, la maladie, cette épidémie s'est déjà installée. Mais moi, mon intervention, je veux vraiment encourager les mesures d'hygiène générale dans la population. Quand ces mesures sont tellement très importantes dans la lutte contre le choléra et vont empêcher la survenue de la maladie. Le risque cholérique sera vraiment très limité dans les pays développés et à un niveau d'hygiène élevé, mais lorsque l'hygiène générale est négligée, le risque cholérique sera très augmenté. Mais lorsque l'épidémie est déjà installée au pays, les mesures de prévention doivent d'abord concerner les individus car l'infection se transmet de façon interhumaine et ensuite l'environnement. À ce stade-là, quelles sont les mesures à prendre? Là, il faut d'abord commencer par faire le bouclage des zones.
Allô? Christian? Christian, vous êtes là? Voilà, nous avons perdu Christian, qui pourtant donnait son point de vue. Nous allons peut-être essayer de le relancer. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Ok, Nico.
Oui, Gaston, quel est votre point de vue?
Bon, Nico, j'allais dire que en réalité, nous vivons avec cette maladie. Nous vivons avec les agents causaux, causales, je ne sais pas, de cette maladie. Nous les vivons avec tous les jours. Mmh. Et puis, j'allais aussi dire que la population a une grande responsabilité. Parce qu'avant, ce que les autres vivent ailleurs, soit, c'est que les bonnes conditions de vie nous montrent à travers les images, des trucs comme ça. Nous, en voyant tout ce qui se passe dans notre pays, nous disons que là, nous vivons en permanence avec les gens qui peuvent causer des maladies. Mais il y a une réalité aussi. Nos ancêtres, en réalité, n'avaient pas, à mon avis, n'avaient pas toutes ces notions ici d'hygiène, des trucs comme ça, mais ils vivaient pendant longtemps. Mais si actuellement, vous allez constater que la population, à mon avis, est devant l'embarras de choix, parce qu'en réalité, la population d'une manière générale est ignorante, mais n'a pas de bons guides. Vous allez constater, par exemple, en ce qui concerne les religions, ce qu'elles transmettent les religions comme message. Par exemple, la Bible vous dit, il y a un passage-là, vous ne faites pas beaucoup d'attention à ce passage-là, mais je pense que c'est très important ce passage-là. Ok? Et ce qui entre ne tue pas, mais c'est plutôt ce qui sort. Vous voyez, il y a des gens qui se permettent de ne pas appliquer, parce que ça c'est la pauvreté, et donc beaucoup d'ignorance, beaucoup d'aspects, les gens vivent dans la saleté. Mais je voulais aussi dire, vous voyez, de l'eau que nous vivons. Mmh. Actuellement, il y a des gens qui fabriquent, en réalité, les gens doivent boire, à mon avis, doivent boire. Mais quel type d'eau? En réalité, vous voyez, actuellement, il y a des gens-là qui prétendent.
Gaston, vous êtes avec nous? Voilà, nous avons perdu Gaston. Gaston qui était en train de développer son point de vue et qui pense que nos ancêtres ne vivaient pas forcément dans le luxe, mais on n'avait pas des cas de choléra comme on en trouve aujourd'hui. Mais il évoque quand même aussi le problème de la distribution de l'eau potable qui est important pour essayer de combattre le choléra. Il est revenu sur le point de vue de Madame Moussafiri qui nous appelait de Kisangani. Dadi, vous êtes à Lubumbashi. Bienvenue.
Merci beaucoup. Bonjour à notre invité ainsi qu'aux auditeurs de Radio Kati.
On vous écoute, Dadi.
En fait, j'aimerais juste insister sur deux points. Oui. La sensibilisation, là, on en a déjà parlé et c'est bien. Mais le grand problème, c'est notre service d'hygiène. Donc, nous vivons dans un milieu qui est tellement insalubre où nous n'avons pas pratiquement de l'eau potable, et alors qu'il y a des moyens que nous pouvons mettre en marche pour parier à ces problèmes d'eau et d'assainissement. Mmh. Pour l'eau, par exemple, je pense, je vis à Lubumbashi, quartier Tabac Congo. Il y a des particuliers qui font des puits, hein, des puits forêts, hein, et ils donnent, ils se mettent ainsi à vendre de l'eau. Mmh. Qu'est-ce qui empêche à notre État congolais de faire de la sorte, si les particuliers peuvent faire ça? Et concernant l'assainissement du milieu, nous avons des cadres que nous appelons des cadres de base. Quel est leur rôle dans la société? Nous avons des avenues tellement sales, nous avons des gens qui amassent des tas d'immondices chez eux, ils attendent lorsqu'il y a de la pluie et ils déversent ça sur l'avenue. Et ces cadres-là de base n'ont pratiquement rien à faire. Et vous comprenez que avec cette habitude, avec l'État qui ne sait pas faire ce que les particuliers peuvent faire, on ne mettra jamais fin à cette histoire de choléra.
Merci beaucoup,
et
Daddy.
Pour terminer, j'aimerais vraiment poser une petite question à notre invité.
Oui.
Alors, la question, elle dit, nous avons souvent la tendance de dire que le Congo, c'est un continent. Est-ce que le Congo, c'est un continent par rapport aux Congolais ou par rapport au monde? Parce qu'au monde, je veux dire tout de suite que c'est faux, le Congo n'est pas le premier grand pays, ni au monde ni en Afrique. Mais chaque fois qu'il y a un problème, le Congo c'est un continent. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, je n'ai pas bien compris votre question, je ne sais pas si notre invité a bien compris, parce que vous avez essayé vous-même de répondre à votre question. Docteur Jean-Faustin Balélia, vous allez essayer de répondre à la question des Dadis, ça sera également notre conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, comment faut-il faire pour arrêter le choléra?
Bon, comme je pense que j'avais dit au début, que le choléra c'est un problème de tous les jours. Donc, on doit lutter contre le choléra tous les jours. Lorsqu'il y a épidémie, on doit renforcer donc cette lutte. Et après l'épidémie aussi, nous devons toujours continuer à lutter. Et donc, sinon, ça sera difficile. Hein, nous devons faire tout pour que les conditions d'hygiène, hein, donc les conditions d'hygiène dans nos milieux, là où habite la population, doivent être améliorées. Donc, nous devons améliorer les conditions d'hygiène dans les communautés. Nous devons amener la population à mettre en pratique les règles d'hygiène. Nous devons faire tout pour que la population puisse avoir de l'eau potable et vivre dans un milieu sain.
Voilà,
sinon, ça sera difficile. Donc, nous allons toujours continuer à pleurnicher, à parler du choléra chaque jour.
Voilà, il
faut vraiment
docteur.
Qu'on ait des infrastructures de base qui vont permettre à ce que la population puisse vivre dans un milieu sain.
Voilà, il y a Dadi, par exemple, qui a évoqué un fait. À Lubumbashi, il y a des particuliers qui font des puits et qui vendent de l'eau. Il y a des personnes qui sont chargées de l'assainissement dans les avenues et qui ne font pas leur travail. Voilà. Docteur Jean-Faustin Balélia, directeur santé Croix-Rouge RDC, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci à vous tous d'avoir appelé à parole aux auditeurs. Nous allons tout de suite recevoir Pierrot et la Mégie dans ce studio pour découvrir le sujet ou le thème de lundi dans Parole aux auditeurs. Pierrot, bienvenue.
Bonjour Nico, bonjour à tous les auditeurs.
Alors de quoi allons-nous parler lundi, Pierrot?
On se retrouve à 11h04 heure de Kinshasa. Rappelons que le 1er février 2017, le 1er février 2018, cela fait exactement un an depuis que le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Mulumba, est décédé en Belgique des suites de maladie. Mais jusqu'à ce jour, ça depuis n'est toujours pas rapatrié à la base des divergences qui persistent entre le gouvernement, sa famille et son parti politique sur les conditions de son enterrement. Comment analysez-vous cette situation? C'est la question autour de notre échange le lundi prochain.
Et ça sera à 11h de Kinshasa. Mais ils peuvent nous appeler à quel numéro?
081-890-4969. 081-890-4969. Mais aussi 09-97-06-4969. Les deux lignes seront ouvertes le lundi à 10h, juste heure de Kinshasa pour les inscriptions plus tôt. Mais ce sujet sera aussi posté demain moment à l'autre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Et aussi, l'émission que vous venez de présenter, Nico, sera tout à l'heure sur le site www.radiocapi.net.
Donc, on se retrouve lundi à 11h de Kinshasa et on retient que les auditeurs peuvent commencer déjà à se faire enregistrer à partir de 10h, donc une heure avant le début du magazine. Encore une fois, Pierrot, merci et excellent début de week-end à toi, à ta famille.
Merci.
Et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
C'était... Merci, Rico, à toi aussi et à tout le monde.
Merci. Cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup plus à ceux qui sont intervenus, à ceux qui vont intervenir lundi pour le thème que Pierrot vient de nous annoncer. Jacques-Claude Thial a été à la mise en onde, J.R. Lungembo au standard, Pierrot et la Meji à la réalisation. Je suis Nico Kalambay et c'est avec le même plaisir que nous allons vous retrouver lundi à 11h de Kinshasa pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Encore une fois, excellent week-end chez vous.